Bernard et bonne semaine à tous. Dans un communiqué publié samedi 19 avril 2025, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a donné injonction à l'auditeur général des forces armées de la RDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement rebelle FCM23. En outre, le ministre d'État Constant Moutamba a ordonné la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, des mesures de restriction des mouvements ont été prises à l'encontre de tous les collaborateurs de Joseph Kabila impliqués dans cette affaire de haute trahison à l'égard de la nation. Pour sa part, dans un autre communiqué, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a annoncé la suspension de toutes les activités politiques du PPRD et du FCC sur l'ensemble du territoire national à dater du 19 avril 2025. Quelle lecture faire des décisions prises par les autorités congolaises à l'encontre de l'ancien président Joseph Kabila? Nous en parlons ce soir avec Trésor Kibangula, il est analyste politique et directeur du pilier politique à Ibouteli. Trésor Kibangula, bonsoir.
Bonsoir, Kili.
Christian Moleka est aussi avec nous dans ce débat. Il est analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir, Kili.
Jean-Morbert Senga, est-ce qu'il est en ligne? Jean-Morbert Senga, bonsoir. Jean-Morbert Senga, vous m'entendez? Je pense qu'on a des petits soucis avec sa ligne téléphonique. Lui, il est avocat, consultant sur les questions de protection des civils. Il est également aussi un chercheur sur la RDC à Amnesty International. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Vous nous suivez sur la 95.8. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a donné injonction à l'auditeur général des forces armées de la RDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement rebelle FCM23. Des mesures de restriction des mouvements ont été pris également à l'encontre de tous les collaborateurs de Joseph Kabila impliqués dans cette affaire de haute trahison à l'égard de la nation. Plus de détails avec vous, Bertin Kassiama.
Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba, a ordonné samedi 19 avril 2025 l'ouverture de poursuites judiciaires contre Joseph Kabila, ancien président du pays, ainsi que contre ses complices, soupçonnés de soutenir les groupes rebelles AFC M23 appuyés par l'armée rwandaise. Dans un communiqué officiel, le ministre a donné instruction à l'auditeur général des forces armées de la RDC et FARDC et au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites contre l'ex-chef de l'État qui a dirigé la RDC pendant 18 ans. Par ailleurs, il a ordonné la saisie de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant au sénateur à vie Joseph Kabila. Les communiqués précisent également que des mesures de restriction des mouvements ont été prises à l'encontre de tous les membres et responsables du PPRD, les partis de Joseph Kabila impliqués dans cette affaire qualifiée de haute trahison envers la nation. Ces mesures visent à empêcher toute tentative de fuite ou de dissimulation de preuves. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a suspendu les activités du PPRD dirigé par l'ancien président Joseph Kabila sur l'ensemble du territoire national. Cette décision intervient au lendemain de l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, une ville sous occupation du groupe rebelle M23. Jacquemain Chabani a dénoncé l'attitude ambiguë de Joseph Kabila face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et les rebelles de l'AFC M23. Kabila n'a jamais, dans ses déclarations devant la presse, condamné cette agression, a déploré le ministre de l'Intérieur. Le ministre a également annoncé son intention de saisir les parquets près la Cour constitutionnelle pour porter les faits à l'attention de la justice.
Merci Bertin Kassiama pour tous ces détails. Trésor Kibangula, je rappelle que vous êtes analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Que pensez-vous de ces décisions prises à l'encontre de Joseph Kabila et son parti en politique, décisions prises par le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur?
J'ai l'impression que les pouvoirs voulaient frapper fort. Mais peut-être trop vite, parce que ces mesures interviennent juste après hein, les rumeurs de l'entrée ou du retour de Joseph Kabila dans le pays, dans la partie orientale, à Goma.
De sa présence à Goma,
qui, jusqu'à preuve du contraire, reste encore des rumeurs. Donc, c'est ce qui m'interpelle aussi, c'est les caractères hein, réactifs. De ces mesures et le fait qu'elles soient prises au même moment parce que c'est la première fois qu'on puisse voir à la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice frapper avec cette simultanéité.
Coïncidence ou une stratégie coordonnée?
Ce que je disais, c'est qu'il y a eu une impression que le pouvoir voulait vraiment frapper fort et comme si on cherchait un élément déclencheur, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des tensions entre les camps Kabila et les camps de son successeur, donc les camps de Félix Tshisekedi. Depuis fin 2020, on a des épisodes comme ça, des tensions. Ce qui frappe aujourd'hui avec cette séquence, donc je disais, c'est la nature des mesures, parce que ce sont quand même des mesures fortes, leur intensité et aussi leur simultanéité. Et de là, je dégage, je pense, deux dynamiques. Il y a d'un côté ces changements des méthodes. On assiste à un durcissement hein, quand même d'attitude du pouvoir. Jusque-là, les pouvoirs pointaient, lançaient des pics contre les régimes. On est en train d'assister peut-être à une phase de passer à des poursuites judiciaires contre Kabila. Et cela traduit aussi une autre dynamique, c'est que on est en face d'un pouvoir qui est quand même crispé. De voir cette figure qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui est perçue comme quelqu'un qui a encore de l'influence, même s'il a été longtemps en retrait, de le voir revenir, ça crispe un peu le pouvoir et le pouvoir veut peut-être frapper vite. Et il a frappé trop vite.
Alors, Joseph Kabila est accusé de participation directe à l'agression menée par le Rwanda. Est-ce que cette accusation est suffisamment étayée pour justifier des poursuites judiciaires?
Pour l'instant, non. Assez qu'on voit, Kabila a, depuis qu'il a fait sa sortie, sa première sortie avec cette tribune dans un média sud-africain, il a laissé sous-entendre une certaine sympathie avec le groupe armé M23, en légitimant presque ce qui se passe. Mais est-ce que cela signifie qu'il est avec eux ou il veut jouer un autre rôle? Ce sera à Kabila de le définir. Et c'est pourquoi Kabila a aussi intérêt, c'est pourquoi il faut peut-être attendre sa déclaration. On a dit qu'il allait parler depuis la partie orientale ou ailleurs. Ce sera important pour Kabila, en tout cas, de préciser le rôle qu'il veut jouer, parce qu'il ne peut pas à la fois être joueur et arbitre. S'il veut jouer un rôle dans la médiation de cette crise, il y a déjà plusieurs initiatives, il doit préciser très rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'ambiguïté qui laisse entrevoir lorsqu'il prend la parole, lorsqu'il pose certains actes.
Alors, il y a cet internaute hein, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi, Alain Kassongo depuis Lubumbashi. Voilà, il dit poursuite contre Joseph Kabila. Les deux ministres doivent respecter les textes juridiques pour procéder à une poursuite ou saisir les biens d'un ancien chef de l'État. Bemba, ministre actuel, ancien rebelle, on n'avait pas saisi même pas sa voiture. Le gouvernement en place doit nous éviter des comptes à rendre. À la langue et la guerre civile ou tribale.
Oui, je pense que dans un état des droits, même les anciens chefs d'État doivent rendre des comptes, mais à travers des procédures judiciaires qui sont solides. On ne peut pas se contenter des rumeurs ou des calculs politiques pour frapper. Il faut prendre le temps d'enquêter, d'avoir des preuves solides et de poursuivre, de lancer des poursuites. Et je trouve aussi un peu précipité de décider ou d'ordonner certaines mesures qui normalement doivent être précédées par un procès, doivent être précédées par une décision de justice, pas une décision d'un ministre, ministre de justice soit-il. Donc si on veut respecter les cadres d'un état des droits et si on veut que la justice continue à être considérée comme guérie, parce qu'on a longtemps dit qu'il était malade, on doit laisser à la justice ses marges de manœuvre d'enquêter, de poursuivre.
Même en cas de haute trahison,
on peut sanctionner avant.
Même en cas de haute trahison.
Ça doit être décidé par l'organe judiciaire, c'est pas à l'exécutif. C'est pourquoi on est dans un. Enfin, en tout cas, c'est supposé être un état des droits, donc il y a une séparation des pouvoirs. Les ministres de la justice est dans son droit de faire des injonctions au parquet pour instruire. Et c'est au parquet maintenant de rassembler tous les moyens d'épreuve, de ramener l'affaire devant les cours et tribunaux compétentes. Et à la fin, lorsqu'il y aura un procès équitable en respectant les droits de la défense, et là, on pourrait décider de la saisie des biens ou en tout cas toutes les mesures que la justice pourrait décider à ce moment-là. Donc, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il faut commencer d'abord par la procédure judiciaire avant de sanctionner.
Christian Moleka, vous êtes analyste, vous êtes également analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Comment vous vous analysez ces décisions prises par les autorités congolaises à l'encontre de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et ses proches, certains de ses proches?
Je crois que ça peut s'interpréter comme volonté d'aller vers l'escalade portée par le régime. Parce qu'il faut rester dans le contexte. Depuis quelques temps, le président honoraire Kabila a fait déclaration à la fois devant les médias namibiens que sud-africains, arguant qu'il y avait une dictature à l'intérieur du Congo, une réduction de l'espace démocratique, qui s'est retrouvée en exil forcé, et qu'il y avait une forme de régression à l'intérieur. Et pendant ce même temps-là, d'autres efforts diplomatiques ont été menés par le régime pour entrer en contact avec les États où l'ancien président se trouvait, comme quoi il serait source de déstabilisation à partir de l'extérieur. Et donc ce jeu de chat de la souris qui se mène depuis quelques temps avait besoin d'un exutoire pour sortir. Et je crois qu'il y a à la fois un jeu de Kabila qui a construit une forme de bluff pour pousser à la faute les régimes. Et de l'autre côté, vous avez cette volonté de sortir de ce jeu des chats et des souris et d'entrer directement dans l'escalade. Et donc l'événement de Goma, et c'est là où je partage le point de vue de Trésor, a été utilisé comme déclencheur pour Kinshasa pour lancer l'escalade vis-à-vis de Kabila. Et à l'inverse, Kabila l'a utilisé certainement pour montrer à la face du monde qu'il était en situation d'exil politique. Et donc chacun a joué une carte, c'est l'avenir qui nous dira si c'est Kabila qui a réussi à faire passer dans l'opinion internationale que nous sommes en face d'un régime régressif, ou ce serait le Kinshasa qui aurait réussi à neutraliser Kabila. Donc cette dimension stratégique-là, cette guerre lavée qui se mène depuis quelques temps, prend aujourd'hui notre dimension, et donc nous sommes presque dans une forme de montée vers les extrêmes, où chacun cherche à frapper l'autre de la manière la plus forte.
Alors, le ministre de l'Intérieur a annoncé la suspension de toutes les activités politiques du PPRD ainsi que du Front commun pour le Congo. Est-ce que cette suspension pourrait avoir un impact sur la scène politique congolaise? Quelles pourraient être les réactions?
Bien évidemment. La première réaction, c'est que le pays est en recherche de cohésion en cause interne. Là, nous sommes dans un chemin de radicalisation qui amenuise de plus en plus le risque des capacités plutôt des négociations et de cohésion. Et que nous sommes de plus en plus portés par les extrêmes. Et donc, est-ce que du côté du PPRD, ils adopteront également un point de vue extrême, où les avocats ont déposé aujourd'hui leur demande de lever de suspension, où ils continueront à jouer le jeu républicain? Est-ce que le pouvoir ne les pousse pas non plus à la faute pour les pousser à jouer un jeu radical et justifier également à l'intérieur la posture? Donc, il y a ce jour-là qui se joue, qui ne se dit pas, mais le PPRD, cette décision-là s'inscrit donc dans la stratégie qui a été lancée depuis peu de neutraliser le parti de Joseph Kabila.
Alors, le président Félix Tshisekedi, lors d'une de ses sorties médiatiques, avait dit devant l'opinion publique et même internationale que l'AFC, c'est Joseph Kabila, aujourd'hui il y a des poursuites contre ce même Joseph Kabila, qu'on dit être en connivence ou être à la tête de l'AFC. Entre-temps, de l'autre côté, on parle des négociations directes entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 AFC. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comment ça va se passer, tout ça? Christian Moleka.
Bon, ce qui va se passer, c'est qu'il y a aujourd'hui un processus de Doha, même si la première rencontre a avorté, mais il y a un processus qui se met en place qui mettra Kinshasa en face du M23. Aujourd'hui, le médiateur togolais était à Kigali. Et donc là également, il y a une médiation qui se prépare. La question, c'est quelle est la place aujourd'hui à un processus interne? Est-ce que Kabila a encore de la place dans un processus interne, donc y compris son parti, ou pour le pouvoir, il faut exclure le PPRD du processus interne, et donc l'allier en 23. Ce schéma-là sera difficilement acceptable tant en interne qu'au niveau international. Et je crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est de définir quel processus interne réunit les acteurs politiques, si tant est que l'on considère toujours l'ancien président et le PPRD comme des acteurs politiques, ou si on continue à les placer du côté de l'agresseur, donc du A23 et du Rwanda.
Bilin Baouma, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi, demande aux autorités si elles détiennent des preuves solides et irréfutables. Il pense qu'on ne gère pas le pays sur base des rumeurs. Nous sommes à Goma, nous n'avons pas vu Joseph Kabila. Jean-Morbert Senga, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. À vous et bonsoir à Christian.
Je rappelle que vous êtes avocat, consultant sur les questions de protection des civils, mais également ancien chercheur sous la RDC à Amnesty International. Comment vous analysez ces décisions contre Joseph Kabila et ses partisans?
Merci beaucoup. Je dois préciser que j'interviens ici à titre personnel et d'aucune manière pour les organisations pour lesquelles j'ai travaillé ou je travaille. Alors, sur le plan légal, les collègues qui sont intervenus avant moi ont abordé les aspects politiques et pratiques de la question. Sur le plan légal, les décisions prises par aussi bien le ministre de l'Intérieur que par le ministre de la Justice posent des problèmes à la fois sur la forme et sur le fond. Et malheureusement, c'est les deux ministres en question sont des juristes. Donc, j'imagine qu'ils ont ils ont posé ces actes en connaissance de cause, mais reste à savoir pourquoi. Alors, la décision portant suspension du PPRD a été annoncée dans un communiqué officiel du ministre de l'Intérieur. Le communiqué n'est pas un acte juridique. Et quand on parle d'actes juridiques, ce sont des actes qui produisent des effets, mais aussi dont les personnes concernées peuvent contester en justice. Par exemple, si les membres du PPRD s'estiment lésés ou ils estiment que la décision est arbitraire, ils ont la possibilité d'aller devant un juge administratif pour faire annuler la décision du ministre. Mais lorsqu'il s'agit d'un communiqué, on ne peut pas l'attaquer en justice parce que ce n'est pas, en l'occurrence, un acte juridique. Alors j'espère que le ministre a pris un acte juridique et que le communiqué n'a fait que cristalliser cet acte-là dans le domaine public, même si on n'a pas vu, en tout cas moi je n'ai pas eu connaissance d'un tel acte. C'est la même chose pour le communiqué du ministre de la Justice portant injonction de poursuivre l'ancien président Kabila et de saisir ses biens et d'interdire le déplacement de ses collaborateurs. Là encore, on a affaire à un communiqué. Et ce n'est pas la première fois, ça revient de manière récurrente. Et un communiqué n'est pas un acte juridique. Maintenant, sur le fond, d'abord en ce qui concerne le pouvoir d'injonction, beaucoup a été dit à ce sujet. Et je vais rester dans des termes génériques parce que les gens qui nous suivent ne sont pas tous forcément des experts du domaine pour comprendre les détails. Alors, le ministre de la Justice a effectivement un pouvoir d'injonction sur les magistrats du parquet. Mais le pouvoir d'injonction, ça veut dire que le ministre peut demander au procureur, qu'il soit militaire ou civil, d'enclencher des poursuites dans une affaire donnée. Mais ce pouvoir-là ne lui donne pas le droit de dire au magistrat l'acte ou les actes qu'il est censé poser. Par exemple, il peut dire, j'ai entendu dire qu'il y a eu, un accident à Massadi Kibala, je veux que vous puissiez ouvrir une enquête sur cet incident-là. Mais il ne va pas dire, je veux que vous puissiez arrêter un tel, je veux que vous puissiez saisir tel objet ou tel bien. Ça rentre, c'est un excès de pouvoir parce que ça va au-delà du pouvoir d'injonction. Il ne peut pas non plus demander au magistrat de ne pas, enfin de placer par exemple une affaire sans suite. C'est ce qu'on appelle une injonction négative. Il a uniquement eu un pouvoir d'injonction positive sur les magistrats. En l'occurrence, lorsqu'il dit avoir demandé à la justice de poursuivre le président Kabila et de saisir tel bien, ce sont des informations de détail, ce sont des questions de détail qui ne relèvent pas de sa compétence et qui empiètent sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, en l'occurrence du parquet. Alors certains ont argumenté que le parquet, depuis la réforme de la Constitution de 2011, ne relevait plus du pouvoir judiciaire, mais plutôt du pouvoir exécutif, ce qui n'est que partiellement vrai. C'est vrai que le statut des magistrats du parquet relève du pouvoir exécutif, mais ils n'en sont pas pour autant dépendants du ministre de la Justice ou du pouvoir exécutif dans l'exercice de leurs actes au quotidien. Comme je le disais, ils peuvent recevoir l'instruction générale d'ouvrir une enquête, mais le ministre n'a pas le droit ni le pouvoir de leur dire qu'ils doivent arrêter un tel ou bien qu'ils doivent condamner un tel autre ou qu'ils doivent saisir tel bien et ne pas saisir tel autre. Ça ne relève en aucun cas de son pouvoir.
Alors, il y a Léonard Olo-Akiama qui pense que le gouvernement congolais a des preuves et des précisions avant de se prononcer maintenant, car il ne l'avait jamais fait depuis tout ce temps. Si le gouvernement se prononce aujourd'hui, c'est qu'il détient des preuves palpables. Hein. Il n'a pas besoin de les brandir.
Mais alors, Effectivement, je laisse mes autres collègues peut-être abonder sur la question sur les aspects politiques. Mais en ce qui concerne le droit, déjà le gouvernement ne peut pas dire qu'il a les preuves parce que ce n'est pas son travail. Les preuves, ce sont des questions de la justice. C'est aux magistrats de récolter les preuves, de dire telle personne ou telle autre a commis une infraction ou ne l'a pas commise. Vous aurez noté également que je n'ose pas m'aventurer sur la question de savoir si, oui ou non, le fait que Kabila se trouverait à Goma est une infraction ou pas. Ça, c'est la question de la justice. Mais non, si les autorités estiment qu'il y a des infractions contre les lois du pays qui ont été commises, il leur revient de demander au procureur, qu'il soit militaire ou civil, d'ouvrir des enquêtes, mettre à leur disposition les informations, les preuves qu'ils pourraient avoir à leur disposition et laisser ceux-ci faire leur travail de manière indépendante, de manière à respecter les droits des personnes mises en cause. Je dois préciser que la question, le droit à la propriété, c'est un des droits fondamentaux qui sont consacrés par notre Constitution, tout comme le droit à la liberté d'aller et de venir, par exemple, tout comme le droit d'exercer des activités politiques pour ce qui est des membres du PPRD. Alors, il ne s'agit pas, on doit arrêter avec les questions des états d'âme. Est-ce qu'ils ont, ils ont parlé avec tel rebelle, tel groupe, ou bien est-ce qu'ils ont bien géré le pays ou pas bien géré le pays lorsqu'ils avaient le pouvoir? Ce n'est pas la question. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils ont commis des actes infractionnels et est-ce qu'on met en place un mécanisme qui soit équitable pour établir les faits dont ils sont reprochés et leur donner l'occasion de se défendre. Or, en l'occurrence, en signant des communiqués comme cela et en allant au-delà du pouvoir d'injonction qui lui est reconnu pour ce qui est du ministre de la Justice et en passant par un communiqué plutôt qu'un acte juridique pour ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, on voit bien que malheureusement, ce sont des actes arbitraires qui ne font que aggraver l'injustice plutôt que toute autre chose.
On va ouvrir le standard pour donner la parole à ces nombreux auditeurs qui attendent en ligne, qui veulent donner leurs avis sur le sujet de ce soir. Direction Lomami, la province de Lomami, pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
Christian Kapila Kankonde, depuis Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Les décisions prises par les deux ministres seront vraiment salutaires au cas où elles seraient mises en application. Car nous connaissons qu'en RDC, tout se limite seulement au discours sucré pour masquer le peuple. Mais en réalité, rien ne se matérialise. Nous demandons au gouvernement congolais d'être sérieux devant les décisions. Joseph Kabila n'est plus à l'étranger où il fallait le chercher, mais plutôt à l'est du pays même. Ce que nous ne voulons plus, c'est mettre la population dans des situations difficiles, pouvant provoquer de plus les morts innocentes de notre peuple.
Président Kibangula.
Il y a beaucoup de choses. comment réagir à ça? C'est que je pense que ce que l'auditeur vient de dire traduit un peu les sentiments que j'ai en observant tous les jours la scène politique congolaise. C'est comme si on s'enfermait dans une logique binaire. Ou bien on est avec la patrie, ou bien on est avec l'agresseur. Il n'y a pas d'espace démocratique. Il n'y a pas un espace où des voix divergentes peuvent émerger pour critiquer en cette période de crise les régimes en place et en même temps aussi demander des explications, des clartés de la part de ceux qui ont des accointances ou qui ne veulent pas condamner les M23 ou l'agresseur. On doit demander peut-être des explications pourquoi ils ne veulent pas condamner sans forcément considérer que toute voix qui n'est pas celle du gouvernement est une voix anti-gouvernement, anti-patrie. C'est ce qui est dangereux dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça demandera peut-être un sursaut de chacun et aussi du gouvernement pour essayer d'émerger cet espace. Peut-être le pays en a besoin de créer cet espace pour la quête des cohésions nationales.
C'est pas vraiment j'allais des... poser une question sur la cohésion nationale. Est-ce que cette situation peut affecter la cohésion nationale?
En tout cas, c'est mal barré, c'est mal parti, mal embarqué. Le fait qu'en même temps, on est en train de discuter à Doha avec ceux qui ont pris les armes véritablement. Et en interne ici, on a du mal à voir une dynamique de renforcement des cohésions nationales. Vraiment, on a eu une tentative du président de la République avec les consultations nationales, mais on a eu comme l'impression qu'on voulait beaucoup plus élargir cette union sacrée à d'autres personnes qui ne pèsent pas vraiment sur la scène politique, parce que la plupart d'opposants aujourd'hui sont en exil, ils n'étaient pas très demandeurs de ces cadres-là des discussions. Beaucoup espéraient que le président puisse accepter l'initiative portée notamment par les évêques. Pour l'instant, cette initiative est boudée. Alors, je vois mal comment est-ce qu'on pourra construire cette cohésion nationale si tout le monde reste braqué et crispé, en train d'attendre ceux qui vont dire quelque chose de travers ou qui ne va pas dans le sens de ce que les gouvernements pensent. Je pense que c'est très, très dangereux.
Après Lomami, on va aller dans la province de la Tchopo pour écouter cet autre auditeur qui attend en ligne.
J'appelle la partie de Kisangani, mais c'est Blaise Sandi Atoubou. Jusqu'à présent, Joseph Kabila jouit des présomptions d'innocence. Saisir ses biens sans être attendu jugé et condamné serait un acharnement pire et simple à son encontre. Il y a le préalable pour que M. Joseph Kabila soit jugé, qu'il y ait une convocation des congrès ou les vaisseaux inimités parlementaires qui le protègent contre la poursuite judiciaire. Est-ce que le ministre de la Justice a une preuve attestant que le sénateur à vie est à Goma? Tout le monde qui mettra ses pieds à Goma ou à Bukavu sera complice dans cette guerre. Le silence est une infraction pénale et complice avec les agresseurs. Tout Congolais doit impérativement dénoncer l'agression rwandaise. En restant silencieux, vous êtes complice.
Alors, c'est plusieurs questions que cet auditeur se pose, hein, Christian Moleka.
Oui, effectivement, je salue Blaise Aïdi depuis la Tchopo. Je peux partager totalement ce qu'il soulève, que ce soit en termes de présomption d'innocence ou même d'interprétation du silence comme un fait factionnel. Je crois que pour que la République prenne une décision aussi grave de mettre devant la justice un ancien président dans un contexte d'alternance que nous venons à peine de traverser et de tout ce qui a été vendu comme un modèle de stabilité en Afrique, parce qu'il y a une dimension que peut-être nous ne prenons pas, c'est que dans toute la région, on suit ce qui se passe en RDC. Un président en fonction qui décide de quitter le pouvoir alors qu'on est dans une région où on ne le fait pas, et puis demain qui va se retrouver dans des contextes, tout ça, et donc toute la région suit. Et donc, si nous sommes, si le gouvernement décide de mettre devant la justice l'ancien président, il faut suffisamment apporter d'informations, tant pour l'opinion intérieure que pour l'opinion internationale. Et le ministre de l'Intérieur, qui est le premier de ces bureaucrates, parce qu'il a quand même la tutelle sur les services de renseignement, aurait pu aider la République en présentant des éléments plus précis. Je pense que nos services de renseignement sont suffisamment outillés pour nous dire, voilà, il est entré tel jour, telle heure, tel endroit, logé à tel endroit, a eu tel contact. Dans d'autres nations, dans d'autres pays, les services de renseignement peuvent communiquer même pour, je dirais, soutenir ou justifier les décisions politiques qui vont suivre. Et lorsque vous avez un communiqué, puis une prise de parole sur TV5 Monde, Je ne pense pas qu'on a suffisamment d'informations pour rassurer l'opinion intérieure. Et ça, je crois que ça justifie la position de Blaise Aïndi. Ça peut pousser certains à penser que nous sommes face à de l'acharnement. Alors que peut-être l'absence d'information, ou plutôt le fait qu'on mettrait l'information à la portée des citoyens, pourrait conduire à une autre conclusion. Donc il y a suffisamment, il y a de besoin de donner plus d'éléments d'information lorsque l'on veut mettre en place de telles initiatives. Et ne pas se contenter à des communiqués qui ne vont pas forcément rassurer l'opinion. Donc je partage son point de vue, et après, sur le silence, je ne pense pas qu'on mesure le soutien à la patrie par le nombre de mots que l'on prononce. Et je ne pense pas que ceux qui crient le plus la patrie, que ce soit forcément ceux qui aiment la patrie. Donc il y a des lois, il y a des cadres légaux. Le gouvernement est censé respecter les valeurs publiques, saluer les états de droit. Et donc nous pensons que si on veut arrêter l'ancien président, il faudrait respecter les lois de la République. Même si les contextes peuvent paraître assez extrêmes, mais il faut respecter les lois de la République, il faut respecter les institutions de la République, les parlements, le congrès, ainsi de suite, pour que nous ne construisions pas la perception qu'il s'agit des démarches politiques.
Merci Christian Mouleka. Marcel Pocock, depuis Kiasumbalesa, dans le Katanga. Si l'ancien président Joseph Kabila était sincère, il devrait commencer par condamner l'agression de notre pays par le Rwanda. L'implication de l'ancien président dans cette affaire n'est pas à démontrer, chers Congolais. L'ancien président Joseph Kabila a trahi le pays. Il doit être poursuivi, car avant même les rumeurs, il y a eu l'annonce de son retour par la Grande Orientale. Nous demandons aussi aux autorités congolaises de respecter juste la procédure avant toute chose. C'est la réaction de M. Marcel Pocock depuis Kiasumbalesa dans le Haut-Katanga. On va prendre ce dernier auditeur qui est en ligne. Il nous appelle de Mbujimayi.
C'est Smart Kalonji, j'interviens à partir de Mbujimayi. Ces décisions hâtives prises sous la pression ou l'élan de l'émotion fragilisent notre démocratie au lieu de la consolider. Il aurait été sage et plus mature de laisser la justice en toute indépendance et transparence établir les faits avant d'envisager des mesures aussi radicales que la suspension du parti PPRD ou la saisie de biens. Condamné par un simple communiqué sans jugement préalable ni base juridique solide va à l'encontre de l'esprit de l'état des droits. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aurait dû formaliser sa décision par un arrêté ministériel portant la suspension des activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national, alors que lui l'a fait par un simple communiqué qui n'a aucun effet juridique. C'est pour dire que le PPRD demeure en droit de poursuivre ses activités faute d'un arrêt portant suspension de celles-ci. Ces vides juridiques manifestes confirment une fois de plus la précipitation dans les traitements de ces dossiers hautement sensibles.
Voilà, Jean-Norbert Senga, un mot par rapport à la réaction de Jolie Smart Kalonji depuis Mbujimayi.
Oui, je suis, en tout cas, je suis d'accord avec lui. Comme je l'ai expliqué, les décisions, c'est surtout qui sont aussi graves dans un contexte aussi chargé, doivent être prises sous une certaine forme. Et malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on a eu droit à des communiqués qui ne sont pas normalement des actes juridiques. Et donc la conclusion, c'est que normalement, ces communiqués-là devraient même être ignorés, que ce soit par les procureurs concernés, que par, en l'occurrence, le PPRD ou Kabila ou les autres personnes directement mises en cause. J'ajouterai sur la question de poursuite contre le président Kabila, qui a eu une loi en 2018 qui a été votée portant statut des anciens chefs de l'État et chefs de corps. L'article 8 de cette loi dit que pour poursuivre un ancien chef d'État pour des faits commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, on a besoin que le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès et qu'à majorité de 2/3, ils puissent se prononcer pour ces poursuites-là. Donc rien que cette loi enlève même toute possibilité d'injonction au ministre de la Justice. Donc à la limite, il peut demander à ce que le procureur fasse une demande au Congrès pour qu'il l'autorise à poursuivre l'ancien président de la République. Et cela non plus n'a pas eu lieu. Donc il ne peut pas juste se réveiller un matin et dire « Allez, poursuivez-moi celui-là ou arrêtez-le » parce qu'il y a cette loi. Et quand je le dis, il ne s'agit pas de dire que c'est une bonne loi ou une mauvaise loi. Personnellement, je trouve que c'est une loi qui consacre l'impunité. Nous l'avons dénoncée en son temps. Mais elle est là. C'est une loi de la République et il faut se conformer. Si demain, l'ancien président de la République s'appelle Tshisekedi, je tiendrai le même discours.
Alors, je crois que vous avez répondu à la question de Luc Ngandou depuis le Kasaï central, qui voulait savoir qu'est-ce qui est prévu par la loi portant statut des anciens présidents de la République, comme Joseph Kabila, qui est encore un sénateur à vie. Trésor Kibangula, quelles leçons tirées de cette affaire pour l'avenir de la démocratie et l'état de droit en RDC?
Je pense que c'est un signal politique. Tout de même, je pense que le pouvoir essaie de montrer qu'il n'est pas prêt à accepter les retours de Kabila, surtout dans ces conditions. C'est ce qui est troublant, c'est que au moment où les pouvoirs ouvrent ces nouveaux fronts politiques ou judiciaires contre Kabila en l'accusant d'être derrière les M23, c'est les mêmes, au même moment ils sont en train de discuter, en tout cas des contacts sont en cours à Doha avec les M23. Donc je pense que le deux partis, que ce soit les pouvoirs congolais, doit gagner en clarté en nous expliquant très clairement la démarche, parce qu'à un moment donné, discuter avec les M23, c'était la ligne rouge. On a vu les pouvoirs se déplacer, les autorités congolaises se déplacer d'abord à Luanda et aujourd'hui à Doha. Et de l'autre côté, Kabila aussi doit apporter un peu de clarté dans son positionnement, parce que depuis qu'il a refait surface, il multiplie des discours qui restent ambigus. Est-ce qu'il veut jouer un rôle dans la médiation ou est-ce que on doit le considérer véritablement comme une partie prenante dans cette crise?
Alors il y a certains analystes qui parlent des manipulations, trop des manipulations dans cette affaire de Joseph Kabila.
Je pense que c'est la manipulation des deux côtés, hein, que ce soit du côté de Kabila et du pouvoir. C'est aussi une guerre de communication, une guerre des postures pour gérer aussi l'opinion publique. Il faut se rappeler de la tonalité de la campagne électorale. Donc ça se joue là-dessus. Et lorsqu'on a parlé, on a annoncé ses retours. Je pense que même plusieurs médias s'y sont précipités pour annoncer que le président était vendredi, à Goma. Et parce que ces médias-là ont essayé d'appeler certains proches du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État. Et ses proches confirmaient qu'il était là, alors que personne ne l'a vu.
Mais donc, après, il y a certains qui ont dit n'avoir pas des nouvelles de Joseph Kabila à Goma, des proches de Joseph Kabila.
Oui, donc il y avait un peu de discours ambivalents, soit il est là, soit il n'est pas là. Les médias ne se sont pas réveillés comme ça pour annoncer. Il y a eu une tentative de manipuler des médias à des fins politiques, mais ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est consacrer une sorte de polarisation de la scène politique. Soit on est avec les pouvoirs, soit on est avec l'agresseur. Il n'y a pas de juste milieu.
Christian Moleka, votre analyse, votre mot de la fin, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Mon mot de la fin, c'est que j'ai comme le sentiment que depuis 2018, nous sommes dans une dynamique de conquête permanente. Que le président Félix est en conquête permanente de contrôle du pouvoir, il a passé tout son mandat à vouloir contrôler la majorité, puis l'Union sacrée s'est mise en place pour avoir de réels contrôles de l'appareil d'État. Et maintenant que nous commençons le deuxième mandat, Nous restons toujours dans cette logique de conquête permanente parce qu'il faut travailler à réduire l'influence des autres et en même temps, le développement que tout le monde espérait, on n'en parle presque plus. Et donc le jeu politique au Congo, il est presque vicié, il est presque circulaire parce qu'on passe le temps davantage à faire de la conquête que de la gestion. Et cette conquête permanente fera que nous allons nous retrouver en 2028 et on va à nouveau inviter les Congolais à aller voter, mais voter pour un système qui, tous les 2-3 ans, se retrouve en fragilité, en lutte de reconquête, en polarisation, puis à nouveau aux élections. Je crois qu'à un moment donné, il faut que notre classe politique se remette en question pour donner aux Congolais un minimum de stabilité pour pouvoir gouverner le pays et répondre aux préoccupations des populations.
Merci Christian Moleka. Jean-Morbert Senga, avant de vous donner la parole pour la conclusion, on va lire très rapidement cette réaction de Isaac Denis Mupenda qui pense que les deux présidents, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, sont à la base de la situation que nous traversons aujourd'hui en RDC. Jean-Morbert Senga, votre conclusion.
Je pense que les autorités doivent faire les choses selon les règles de droit, même s'il s'agit, ou surtout parce qu'il s'agit de faits et de personnalités aussi graves, avec des conséquences politiques considérables, comme les deux autres intervenants l'ont expliqué. Donc, on ne perd rien en faisant les choses selon la règle de droit. Et elle a la beauté d'être impersonnel. Donc, ce qui s'applique aujourd'hui au PPRD et au président Kabila pourrait s'appliquer demain à l'UDPS et au président Tshisekedi, ainsi de suite. L'autre message, c'est que dans la lignée de ce que Trésor Kibangula a dit, il est important pour le pouvoir de ne pas polariser à outrance ce conflit. Par exemple, lorsqu'on dit que le président Kabila serait à Goma, en fait, qu'il y soit ou pas, ça ne devrait pas être une infraction en soi. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a fait ou pas, et non pas s'il y se trouve. Parce que sinon, il y a des millions de Congolais qui habitent dans ces zones-là. On pourrait considérer qu'elles sont toutes en infraction parce qu'elles cohabitent, entre guillemets, avec les rebelles. Donc, c'est important de laisser un espace d'expression où les gens peuvent ne pas soutenir le pouvoir à Kinshasa, sans pour autant être traité d'ennemi de la patrie ou de soutien de la rébellion.
Merci Jean-Morbert Senga. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de ce magazine. Guimaté, Etienne Lissombou, Bertin Kassiama. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Stiala. Derrière les caméras, Jonathan Fonani, Hervé Voka et Clément Chimanga. Martin Sebujangwe a supervisé cette émission. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.